Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Il connaît tous les dessous de la politique. Politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le gouvernement de la CAQ fait penser aux libéraux. Oui, c'est les libéraux que les caquistes aimaient tant fustiger. C'est ce que soutient Paul Saint-Pierre Plamondon en commentant deux reportages récents de notre bureau d'enquête. D'abord, la crise au sein du MTQ, au sein du bureau des enquêtes du MTQ, et ensuite l'utilisation des budgets discrétionnaires par les ministres du gouvernement Legault. On en parle donc avec le chef du Parti québécois. Mais d'abord, une vadrouilleuse du bureau parlementaire est au bout du fil.
Il déterre les dernières nouvelles et déniche les plus récents potins.
Ça vaut la peine, c'est bien investi.
Directement des coulisses du Parlement, voici les vadrouilleurs.
Mais bonjour Geneviève Lajoie.
Bonjour Antoine.
Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Donc, on est passé à la répression, là. C'est ce que tu nous apprends dans le journal de ce matin. Il y a beaucoup de contraventions qui sont émises un peu partout au Québec, pour les rassemblements illégaux, mais dans les maisons.
Oui, exactement. C'est surprenant quand même, hein? Noël a passé, deux jours de l'an.
Ouais.
Bon, il y avait quelques constats d'infraction qui étaient émis par les policiers, mais là, depuis l'avènement du couvre-feu, qui ne change rien pourtant aux règles en ce qui a trait justement aux rassemblements illégaux dans les maisons, mais là, justement, ces constats d'infraction-là émis par les policiers augmentent, mais de façon vraiment exponentielle d'un coup, là. Alors, c'est une situation un peu particulière, mais les corps de police, notamment le SPVQ à Québec, le service de police de la Ville de Québec, ont reconnu que justement l'annonce du couvre-feu, qui est une mesure ultime, exceptionnelle, qui est entrée en vigueur. Ça a été aussi un message lancé aux policiers que maintenant, c'est plus l'heure des avertissements, là.
Oui.
C'est l'heure des constats d'infraction et des contraventions.
Passons un peu à travers les chiffres. C'est vraiment à Montréal que la hausse est la plus importante. Donc, pourquoi est-ce qu'on le sait?
Le service de police de la Ville de Montréal a été extrêmement avare de commentaires, disons ça comme ça, mais reste que quand même, du 21 au 27 décembre, je vous rappelle que c'est donc à Noël, où on s'imagine que malgré les règles qui interdisaient les rassemblements pour le temps des fêtes, il y en a certainement qui se sont rassemblés, et bien il y a eu 6 tickets d'émis pour des rassemblements illégaux dans les domiciles à Montréal. C'est très peu, là. Donc, puis là, la première semaine d'application du couvre-feu, on est rendu à combien? 123 actions. C'est vraiment énorme. Là, ce qu'on dit au service de police de Montréal, c'est que souvent, il ne faut pas oublier que c'est le nombre de participants au rassemblement. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a eu plus de rassemblements, mais que les rassemblements étaient beaucoup plus nombreux. Il y avait beaucoup plus de monde dans les rassemblements. Donc, à chaque fois, le policier, quand il arrive sur place et qu'il voit un rassemblement illégal dans une maison, il y avait peut-être, 15-20 personnes, alors que les rassemblements qui avaient lieu dans le temps des fêtes, c'était beaucoup plus restreint. Donc, peu de personnes. Mais c'est un phénomène intéressant. Il y en a, j'ai parlé à plusieurs policiers dans le cadre de ce reportage-là, sous le couvert de l'anonymat, évidemment, des policiers qui veulent pas là parler ouvertement, et qui me disaient, c'est un phénomène qu'on voit un peu aux États-Unis, qui s'appelle le « depolicing » ou « underpolicing », tout dépendant.
Qui est au fond une sorte de désengagement et une peur des policiers de se faire filmer, donc qui interviennent moins. C'est un peu ça. Hein?
C'est un peu ça. Les médias sociaux qui font en sorte que maintenant un policier qui arrive quelque part, qu'est-ce que fait la personne? Il braque son téléphone, sa caméra de téléphone dans le visage. Donc les policiers font beaucoup plus attention ont beaucoup plus peur des représailles sur les réseaux sociaux notamment. Mais on parlait aussi d'une question de génération. Les plus jeunes policiers sont moins tentés de faire du temps supplémentaire.
Ah oui?
Ils travaillent leurs 40 heures, après ça, ils veulent rentrer chez eux. Fait que, puis des fois, en tout cas, ce qu'on me disait, c'est des fois, les policiers sont tentés de regarder à droite pour pas voir ce qui se passe à gauche.
Donc, les jeunes ou les plus vieux, plus âgés?
Ben, en tout cas, ça je peux pas dire.
Okay.
Mais, ça, je veux pas dire, mais en tout cas, on m'a parlé beaucoup de ça en coulisses. Là. Donc, ce phénomène-là, qui est peu documenté au Québec, on ne sait pas exactement, on n'a pas de chiffres ou on n'a rien, mais l'École nationale de police a quand même jugé bon, depuis 2018, s'intéresser à ce phénomène-là qui est très présent aux États-Unis et puis donc ils sont en train d'étudier là qu'est-ce qui se passe ici au Québec. Ils n'ont pas de données encore à nous fournir, mais c'est quand même un phénomène qui mérite d'être étudié là même ici au Québec.
Est-ce qu'on sait si c'est un phénomène plus fréquent dans la métropole ou dans la capitale nationale?
Ben c'est ça, on ne sait pas encore, puisque pour le moment, ce qu'ils ont réussi à découvrir, c'est quand même les principaux contextes associés au dépolicing au Québec semblent être davantage les interpellations auprès de personnes racisées, les conséquences de la surveillance officielle, donc c'est vraiment là, ils se sentent beaucoup plus surveillés, et le tapage médiatique évidemment qui peut suivre une intervention. Donc, mais même quand tu parles de trajectoire aussi du métier de policier, c'est aussi ça, là. C'est aussi les jeunes qui n'ont pas la même vision de leur carrière de policier que les anciens, qui étaient des gens qui étaient vraiment passionnés et qui étaient prêts à travailler 80 heures semaine.
Et peut-être plus prompt sur la répression? Parce que ça fait longtemps, comme tu as dit, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis l'histoire du couvre-feu. Pourtant, techniquement, là, ça fait longtemps qu'on dit que les policiers auraient pu intervenir, mais ils ont comme attendu ce signal du couvre-feu qui est comme un durcissement assez clair pour intervenir davantage.
Mais c'est vrai aussi que, puisque là, les gens, maintenant, là, toi et moi, on peut pas marcher ensemble dans la rue, là. Hein? On peut pas se rassembler à l'extérieur. Donc ça fait en sorte que pour n'importe quel être humain, se rassembler à l'intérieur, ça apparaît encore plus grave maintenant qu'on a le couvre-feu et que c'est impossible même de sortir dehors à partir de 20h. Donc c'est une certaine hiérarchie aussi dans la gravité des gestes là, tu sais, qui fait en sorte que maintenant se rassembler à l'intérieur, ça devient vraiment très grave.
Mm-hmm. C'est ça. Donc, le couvre-feu a comme envoyé un signal. C'est ce qu'un de tes intervenants, là, Patrick Taillon, qui est accessoirement chroniqueur à La Haut sur la colline, te dit. Hein?
Oui, lui, il parlait vraiment d'un appel du gouvernement. On ne sait pas si cet appel-là, c'est une directive qui est partie officiellement en plus là, de l'imposition du couvre-feu, mais reste qu'en tout cas, les policiers l'ont compris comme ça. C'est ce qui lui fait dire justement à Patrick Taillon que c'est pour ça qu'il voit le couvre-feu comme une application exagérée, un outil exagéré, un peu trop, un remède de cheval finalement. Ben, ils vont peut-être être tentés de souligner dans ces statistiques-là que peut-être que si les policiers avaient agi plus tôt, s'était mis à donner des tickets plus rapidement, ben peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin du couvre-feu.
Ah oui, oui, c'est ça. Mais le couvre-feu a servi comme de signal implicite pour qu'on applique enfin des règles qui existaient déjà.
C'est ça, parce que quand François Legault a annoncé le couvre-feu, il a dit, moi je veux que ça soit comme un électrochoc pour la population.
Oui, oui.
Et ce qu'on se rend compte, c'est donc que ce n'est pas juste un électrochoc pour la population, il visait peut-être aussi les forces policières, là.
Ça fait penser au voyage. Hein? Depuis longtemps, on dit aux Québécois de ne pas voyager, mais là, on commence à en avoir ras-le-bol. Puis comme l'a dit récemment François Legault lui-même, on n'est plus à l'étape d'allumer des lampions, là. Et non. On souhaiterait que le fédéral intervienne. On va voir tout à l'heure, là, au moment où on se parle, il est midi 48, dans 12 minutes, il va y avoir le point de presse du premier ministre. On va voir ce qu'il en est. On va voir si le fédéral a accepté d'aller un peu plus loin dans la répression des voyages et dans la limitation. Mais je trouve qu'il y a un parallèle à faire entre les deux situations.
Tout à fait. Mais c'est sûr que la semaine de relâche, c'est comme au Québec, en tout cas, le symbole du printemps dernier, c'est ça qui a démarré, ça qui a fait en sorte que
oui.
Ça a frappé très fort au Québec comparativement ailleurs dans les autres provinces. Bien, on a très peur de revivre ce moment-là. Puis François Legault l'a très bien exprimé d'ailleurs en début de semaine.
Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que moi, je plaide pour l'annulation de la semaine de relâche. Mais je sais que c'est un débat. Hein.
C'est un débat intéressant ici, parce que dans ma propre demeure, parce que
oui,
mon conjoint est enseignant, donc c'est un débat intéressant. Et les enfants ont leur mot à dire aussi. Est-ce qu'ils veulent vraiment qu'il n'y ait pas de semaine de relâche?
Comment ça se passe? Qui est du bord de qui, là? Je veux dire, est-ce que ton conjoint enseignant il est pour une annulation de la semaine de relâche ou contre?
Bien, évidemment, quand on parle à un enseignant d'annuler la semaine de relâche, le réflexe, c'est de dire, ben voyons, c'est dans la convention collective. Là.
Ouais.
On peut pas modifier ça, c'est impossible. Alors, c'est sûr que cette année, c'est difficile maintenant de dire impossible, puisque tout peut arriver. Alors, on verra bien. Mais évidemment que pour les élèves, en tout cas, moi, mes ados, je pense que malgré tout, ils souhaitent une semaine de relâche dans la mesure où pendant cette semaine-là, évidemment, ils vont être à la maison, mais ils n'auront pas des cours à suivre du matin au soir, comme c'est le cas en ce moment, lorsqu'ils
sont
à la maison. Là.
Les écrans,
écrans
omniprésents. Hey, merci beaucoup, Geneviève Lajoie, pour cette conversation, puis on se reprend bientôt.
Merci.
Je rappelle que Geneviève est correspondante parlementaire au Journal de Québec et au Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
Le bureau d'enquête nous révélait récemment que 5 ans après la commission Charbonneau, ça va encore très mal au ministère des Transports. La division des enquêtes, notamment, a été décimée. Le ministre des Transports, François Bonnardel, a tenté de minimiser cette affaire-là, mais il semble que le problème soit réel. Pour en discuter, il y a au bout du fil Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois. Bonjour.
Bonjour.
Donc, est-ce que c'est inquiétant pour vous, cette situation-là au ministère des Transports qui a été dévoilée par Nicolas Lachance du bureau d'enquête?
Oui, en fait, c'est très inquiétant parce que M. Lachance, non seulement sonne l'alarme en constatant qu'il n'y a plus d'enquêteurs, mais également, lorsqu'on prend citation par citation ce que le ministre Bonnardel a dit en réaction à cette situation-là, il dans un article subséquent, il démontre clairement là, que on se fait pas dire la vérité là par le ministre qui tente de minimiser et qui crée la fausse impression qu'un audit, c'est comme une enquête. Il faut revenir, là, faire un pas de recul et se dire, on a fait la commission Charbonneau, on a investi des sommes importantes parce que ce sont des centaines de millions de dollars perdus en collusion et en corruption, notamment dans le ministère des Transports. L'une des conclusions importantes, c'était que ça prenait des gens spécialisés pour enquêter sur les cas potentiels de collusion et de corruption dans le ministère des Transports.
Mm-hmm.
Et là, ce qu'on voit, c'est que sous la gouverne de la CAQ, qui était censée être un changement par rapport aux libéraux, ben on a essentiellement laissé le groupe d'enquêteurs là, disparaître. Et on n'a rien en ce moment pour prévenir la collusion, la corruption. Donc, on retourne d'une certaine manière, en raison de la CAQ, on retourne à la case départ avant la commission Charbonneau. Moi, je trouve ça épouvantable.
Vous, M. Saint-Pierre Plamondon, vous avez fait partie d'un comité de suivi des recommandations de la commission d'enquête. Or, l'AMP, l'autorité des marchés publics, c'était une des recommandations principales, sinon la recommandation principale. Or, M. Bonnardel nous dit que l'AMP, elle est présente au ministère des Transports. Donc, est-ce que ça, c'est pas rassurant?
C'est une bonne chose que l'AMT ait cette mission-là. Ce n'est pas suffisant pour autant parce qu'il y a toute une question de spécialisation dans comment le ministère des Transports fonctionne. Mm-hmm. Donc, la commission Charbonneau nous dit également qu'il faut que les gens soient spécialisés dans ce cas précis de corruption, dans la connaissance de comment le ministère des Transports, au cours des dernières décennies, a pu être l'endroit où toutes sortes de stratagèmes ont eu lieu pour frauder les deniers publics, pour frauder l'État dans le cadre des projets de construction. Donc, c'est pas parce qu'on a l'AMT en renfort qu'on va enlever au sein du ministère l'expertise,
l'AMP,
qu'on va enlever des enquêteurs.
L'autorité des, c'est confondant avec l'AMT.
Avec les transports, je m'excuse. Mais vous comprenez mon point, oui. C'est pas parce qu'on voulait rajouter de l'expertise externe qu'on va vider le ministère de son expertise pointue sur les cas de collusion et de corruption. Puis il y a, dans le travail de M. Lachance, des témoignages qui sont dits là, de manière confidentielle, à savoir que on a besoin de ces enquêteurs-là et qu'il y avait clairement une volonté de faire fuir les enquêteurs et de ne pas rebâtir cette division-là. Ça, c'est très inquiétant, mm-hmm. surtout quand le ministre ensuite nous donne des réponses qui sont complètement inadéquates, comme si le ministre le savait, mais tente de minimiser ce qui se passe alors que c'est très grave.
Puis Nicolas Lachance m'expliquait qu'il y a une différence entre les auditeurs et les enquêteurs. Les enquêteurs ont beaucoup plus de pouvoir, là. Ils peuvent...
Ça n'a rien à voir, en fait.
C'est ça, exactement.
L'auditeur,
c'est un comptable.
Oui, c'est un comptable. Donc, lui, il va se demander, est-ce qu'on respecte les budgets? Est-ce que les processus d'octroi, les processus sur le plan comptable sont respectés? Ça me fait drôlement penser à la réaction du gouvernement dans le cas... des casinos. Mm-hmm. Pas si longtemps que ça, on avait une situation où, clairement, dans les casinos, des criminels se servent des casinos pour blanchir de l'argent. Il y avait des questions de prêts usuraires et d'autres actes criminels. N'importe quel gouvernement qui a à cœur la lutte à la corruption réagirait en disant la police, puis ensuite une enquête. Et la CAQ a réagi en disant on va envoyer des auditeurs, on va faire un audit, on va envoyer des comptables. Et moi, ça me fait perdre confiance, ça soulève de véritables questions sur qui est la CAQ. Est-ce que la CAQ est vraiment le changement qu'il nous disait, ou est-ce que c'est en fait un gouvernement qui ressemble étrangement aux libéraux? Prenons l'exemple de Fitzgibbon, du ministre Fitzgibbon mm-hmm. avant les fêtes. Conflit d'intérêts, quelle est la réaction de la CAQ? Exactement comme faisaient les libéraux, c'est-à-dire protéger la personne au détriment de ce que la commissaire à l'éthique demandait de faire, de ce que les lois nous ordonnent de faire. Ça fait plusieurs indices qui me font penser que ce qu'on pense qui est la CAQ n'est pas nécessairement dans la vérité, là, c'est dans la réalité, c'est peut-être complètement autre chose, et que c'est un gouvernement qui ressemble pas mal plus à ce qu'étaient les libéraux sous Couillard et Charest que ce que la population peut le croire, mais le temps va nous donner leur juste à ce niveau-là. Mais quand je vois des choses comme les déclarations du ministre Bonnardel, alors que vraiment, il y a un problème, des problèmes sérieux mm-hmm. au ministère des Transports, l'endroit où on a eu le plus de problèmes de corruption, et que sa réaction, c'est de minimiser et de détourner le sujet en parlant d'audit plutôt que de parler des enquêtes, je me dis là, est-ce qu'on est de retour à l'époque pré-Charbonneau, à l'époque des libéraux? Comment intervenir? Évidemment, c'est mon rôle là, comme chef d'un parti d'opposition. Comment intervenir pour que la pression soit assez forte, qu'on ne retourne pas à l'époque des libéraux?
Mais justement, est-ce que c'est pas... la CAQ dans l'opposition roulait des mécaniques, puis quand elle arrive au pouvoir, elle prend conscience de la complexité du pouvoir. Est-ce que ça peut être ça aussi? Est-ce que c'est la CAQ qui a tourné sa veste? Parce que on a souvent l'impression que dans l'opposition, les politiciens sont très critiques et tout ça. Ils arrivent au pouvoir, puis il y a peut-être plus de complexité.
C'est sûr qu'il y en a plus, mais là, prenons l'exemple précis. Là. Il y avait 6 enquêteurs à l'arrivée au pouvoir de la CAQ. Des enquêteurs entièrement dédiés à débusquer la collusion et la corruption au sein du ministère des Transports. Là, on nous révèle, depuis que la CAQ est arrivée au pouvoir, un climat toxique. C'est pas sans nous faire penser à l'UPAC, par exemple, où tout le monde quittait et les enquêtes aboutissaient pas. Donc, un climat toxique, les gens quittent un à un. Il n'y a aucune réaction du ministre, aucune volonté de pallier à la situation. Et lorsque c'est débusqué par un journaliste, la CAQ nous répond que c'est pas grave puis qu'on a mal compris. Là, on n'est pas devant la complexité du travail du pouvoir, on est devant une intention de minimiser ce problème-là. On est devant une forme de complicité avec un phénomène qui, moi, me renverse parce qu'on a mis tellement d'efforts sur la commission Charbonneau. Et la CAQ a fait tellement de communication pour dire « Nous, on va être différents, on est le changement. » Je me dis, c'est vraiment saisissant puis épeurant pour la suite des choses de voir aussi peu de proactivité, aussi peu de volonté. Parce qu'en politique, oui, je comprends tout à fait qu'il y a la complexité. C'est toujours plus facile d'être dans l'opposition que de le faire avec l'ampleur, la complexité des ministères. Mais tout est part de la volonté politique. Lorsqu'on voit même pas de volonté politique, on voit plutôt une volonté de camoufler les problèmes. Là, il y a une source d'inquiétude qui est très légitime pour la population.
Autre enquête du bureau d'enquête qui nous a démontré un phénomène surprenant, le phénomène des budgets discrétionnaires. Alors, c'est en décembre, là, on sait que chaque ministre et ministre délégué ont accès à un budget qu'ils peuvent dépenser comme ils souhaitent. Or, là, on a démontré que ça servait généralement à financer des organismes communautaires, mais là, il n'y a aucune norme, aucune reddition de compte, puis on s'est rendu compte que ça semblait aider des gens à cultiver, pas des gens, mais des ministres à cultiver des bonnes relations dans leur comté.
Quand je dis que la CAQ n'est pas nécessairement ceux qu'on croit, qu'ils ressemblent étrangement aux libéraux, c'est un autre exemple. Donc, essentiellement, non seulement ces budgets-là discrétionnaires par ministère devraient aider des organisations qui ont un lien avec le ministère en question. Par exemple, si on est ministre de la Culture, on va aider en temps de pandémie des organisations qui trouvent ça dur et qui ont besoin d'aide financière dans le domaine culturel. Là, ce qu'on voit, c'est que non seulement ces argents-là sont dépensés dans les comtés caquistes pour se faire réélire, pour se faire aimer, mais en fait, c'est que la CAQ a augmenté ses budgets discrétionnaires-là. Donc, on se dit, pas de problème, on va juste ouvrir les fonds publics qu'on peut donner à notre bon vouloir. Puis on va tout donner, pas tout, mais on va prendre une large proportion de ces argents-là et non pas le donner aux organismes qui en ont besoin, mais plutôt aux organismes qui sont dans nos comtés, parce que notre but à nous, c'est de se faire réélire. C'est un exemple parmi plusieurs exemples qui ressortent dernièrement sur comment opère la CAQ. Puis là, je vous parle pas de leur communication, ce qu'ils vont vous dire publiquement, mais comment dans les faits ils opèrent. C'est quoi leur modus operandi? Et c'est ça aussi, c'est inquiétant. Puis ça aussi, c'est le travail du Parti québécois de dire à la population, voici ce qui se passe dans la réalité et voici pourquoi c'est inacceptable. Voici ce qu'on devrait faire plutôt que d'augmenter les budgets discrétionnaires puis de donner ça à des fins électoralistes. Il y a des besoins par ministère, des organisations qui méritent d'être aidées en temps de pandémie. C'est à eux que cet argent-là doit aller. Puis il faut s'inquiéter d'un gouvernement qui augmente les budgets discrétionnaires et qui donc augmente l'argent qui est dépensé de manière arbitraire là, par chaque député de la CAQ pour favoriser sa réélection.
J'entends déjà les courriels des autres partis entrer dans ma boîte et dire « Ah, ben le Parti québécois, eux, il y a 3 ans, ils embauchaient des gens au Parlement qui faisaient finalement du travail partisan. » C'est l'affaire des agents de liaison là, qui a fait un mini-scandale il y a 3 ans, des embauches partisanes.
Est-ce que ça a changé? C'est tout ce qu'ils ont dans les courriels, ça va me faire plaisir. Parce que le commissaire...
Est-ce que ça a changé, ça, au Parti québécois?
Comme quoi, le Parti québécois n'était pas fautif. Puis, on clarifie cette question-là, mais ça n'a rien à voir avec ce dont on vient de discuter. Là,
okay.
Là, on vient de discuter de 2 thématiques lourdes. Dans la première, on enlève les enquêteurs au ministère des Transports, l'endroit où on a eu le plus de problèmes de corruption. Puis, dans le deuxième, on prend des fonds publics, puis on les dépense comme on veut en fonction de notre réélection. Si c'est tout ce qu'ils ont dans leur courriel, fais-moi signe, je vais prendre ça comme un bon signe. Puis le commissaire à l'éthique s'était prononcé, puis avait dit que le Parti québécois avait rien à se reprocher là-dessus. Là.
OK. Ben merci beaucoup, Paul Saint-Pierre Plamondon.
Ça me fait plaisir, puis à une prochaine.
Chef du Parti québécois et insulaire maintenant, hein, qui habite à l'île d'Orléans. Au revoir.
À une prochaine.
Et c'est tout pour nous à La Haut sur la Colline en ce jeudi. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous demain!